Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
La dette ivoirienne, un sujet qui passionne population et experts des questions de finances, suscitant des débats deux fois houleux sur la question. À savoir si la dette de la Côte d'Ivoire est viable. Oui, répondent certains, qui estiment que tout est mis en œuvre pour maîtriser cette dette. Oui, elle est encore viable, la dette, mais il faudrait faire attention au rythme d'endettement, répondent d'autres. Pour mieux comprendre le mécanisme de la dette et comment rendre plus efficace l'utilisation de la dette ivoirienne, Jean-Claude Comé reçoit dans ce numéro spécial d'Economia un ingénieur statisticien économiste, ancien directeur général du budget et des finances, qui alerte sur le niveau et le rythme de l'endettement du pays. Et c'est dans Economia.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Kwasi Kwame, bonjour.
Bonjour, Monsieur Comé.
Monsieur Kwasi Kwame, vous jetez un regard sur le processus d'endettement de votre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, pour expliquer simplement les termes, l'endettement, c'est quoi?
L'endettement, c'est l'ensemble des engagements auxquels un pays recourt dans le cadre de la couverture de ses besoins. Il recourt à des engagements qui lui procurent des ressources. Donc, il sollicite un certain nombre de ressources, en contrepartie desquelles il a des engagements futurs qu'il doit honorer. Et ces ressources lui permettent de couvrir ses besoins, de financer ses besoins d'investissement et autres besoins courants. Voilà. Donc, la dette, c'est un ensemble d'engagements accumulés qui ont procuré des ressources à celui qui a cette dette-là et qui également l'engage pour le futur. Voilà.
Alors, mais à quel moment un pays est amené à donc aller contracter des dettes?
Bon, une nation fonctionne aussi à peu près comme une entreprise ou un individu. Hein. Un individu, quand vos ressources, vous avez les ressources pour couvrir tous vos besoins, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque ou bien d'aller voir quelqu'un, un ami ou un parent pour prêter de l'argent. Donc, pour une entreprise, pour une nation aussi, c'est pareil. Si une nation a les ressources pour couvrir l'ensemble de ses besoins sans avoir recours à un tiers, une banque, une institution financière ou bien un investisseur qui fait un investissement particulier, en ce moment-là, il n'a pas besoin de recourir à ce financier-là. Mais c'est lorsque ses ressources ne lui permettent pas de couvrir l'ensemble de ses besoins et qu'il y a un gap à couvrir, qu'une nation, comme un individu ou une entreprise, est amenée à solliciter un emprunt.
Alors, on a décidé de s'intéresser donc au processus d'endettement de la Côte d'Ivoire. Alors, vous jetez un regard donc sur ce processus d'endettement. Quel commentaire vous faites déjà de ce processus qui permet à un pays d'aller contracter des dettes pour financer son développement déjà?
D'abord, ce processus doit être encadré à plusieurs niveaux. D'abord, il y a communément dans les différents pays, il y a un plan de développement. Nous, en Côte d'Ivoire, on a un plan national de développement, le PND, qui est un plan à horizon de 5 ans, dans lequel on prévoit l'ensemble des investissements à effectuer dans 5 ans. Donc, les investissements qu'on doit financer avec nos ressources ou avec emprunt doivent déjà être prévus dans notre plan de développement. Ça doit également aussi être intégré dans notre plan budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire un plan budgétaire sur 3 ans ou un plan budgétaire annuel. Ça doit aussi être inscrit dans ce plan. De façon à ce que cet investissement-là soit autorisé puisque ce cadre budgétaire annuel ou triannuel est voté par le Parlement. Il est approuvé par le Parlement. Donc, de façon à ce qu'il soit approuvé, la dépense elle-même, soit l'investissement lui-même également, soit approuvé. Voilà un peu le processus qui doit guider le choix des dépenses à financer dans le budget et ceux à financer par emprunt et aussi le choix même de recourir à un emprunt ou pas.
Alors, vous parlez d'un encadrement, justement. Il y a un projet de loi, juste pour parler de la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, en tant qu'économiste, de cette initiative?
C'est une initiative qui est nécessaire parce que dans une nation, le Parlement définit les politiques. Les politiques sont définies et approuvées par le Parlement et l'exécutif exécute ces politiques qui sont définies. Donc, en matière d'endettement, aujourd'hui, il n'y a pas de politique nationale d'endettement dans nos lois. Il y a un règlement qui a été adopté au niveau de l'UEMOA, l'espace régional. Et les règlements, quand ils sont adoptés au niveau de l'UEMOA, ils s'appliquent directement dans notre corpus juridique. Donc, on peut considérer qu'on a une loi régionale qui est là, qui adresse cette question de politique nationale d'endettement. Bon, c'est regardé, ce règlement-là. Il n'est pas exhaustif, il ne couvre pas l'ensemble des sujets, certainement, donc il n'est pas satisfaisant. Et le gouvernement veut faire adopter une loi nationale sur la politique d'endettement. Donc ça, c'est nécessaire parce que dans un domaine, si le Parlement n'a pas défini la politique, l'exécutif a du mal à exécuter ou alors il exécute sans ligne directrice, sans orientation définie par le Parlement.
Quoi, c'est quoi, mais on peut dire que chaque année, il y a cette loi de finances qui est présentée hein, aux parlementaires.
Oui.
Est-ce que déjà, ce n'est pas un mécanisme d'encadrement de la dépense même publique?
Non, c'est un mécanisme d'encadrement en soi parce qu'on a le niveau des dépenses qui sont prévues, on a le niveau des recettes aussi qui sont prévues et il est indiqué que le budget doit être adopté en équilibre. Donc le budget, au moment où il est adopté, il est équilibré. Mais à l'exécution, c'est-à-dire cette exigence d'équilibre porte sur l'adoption. Il faut l'étendre à l'exécution. Parce que sinon, on adopte des budgets qui sont équilibrés, mais à l'exécution, on se retrouve avec des budgets exécutés avec de larges déficits non couverts. Donc, le cadre à l'adoption du budget ne suffit pas. Vous voyez même les États-Unis, un grand pays comme les États-Unis, vous voyez chaque fois les problèmes qu'ils ont avec le plafond de leur dette qui amène souvent l'administration américaine à fermer en attendant que le Congrès augmente le plafond. Donc, le budget adopté en lui-même n'est pas aussi contraignant. C'est pour ça que d'autres pays ont adopté d'autres règles. Je vais peut-être venir à ça.
C'est ça.
Mais généralement, tant que vous avez des déficits, tant que vos dépenses sont plus élevées que vos ressources propres, que vous avez des déficits, votre dette va augmenter.
Et par habitude, hein, justement, le gouvernement va emprunter pour combler ce déficit-là. Mm-hmm. C'est ce mécanisme-là qui vous inquiète, vous, en tant qu'observateur, surtout économiste. Oui. Pourquoi ?
D'abord, il y a une chose. Comme j'ai dit, le processus doit être encadré. Bon, quand je dis encadré, c'est pas le processus d'endettement lui-même qui est gênant, mais c'est l'usage et l'affectation de la dette, ou alors le choix, la priorité des investissements à financer par la dette.
La question de l'efficacité de cette dette.
L'efficacité de la dette. Il ne faut pas qu'on s'endette pour pouvoir venir payer des dépenses de fonctionnement. Il faut qu'on s'endette pour faire des investissements qui sont de nature à favoriser la création de richesses et tout ça. Mais s'endetter pour payer des dépenses de fonctionnement ou bien s'endetter pour rembourser la dette, y compris les intérêts et tout ça, vraiment, ça, c'est un cercle vicieux.
Mais on peut vous rétorquer aussi qu'au vu hein, du PIB, le produit intérieur brut du pays, et qui croît mm-hmm. depuis en tout cas une dizaine d'années, cette politique mm-hmm. menée, ça a quand même des résultats. On est à pratiquement oui. 43 000 milliards en termes de PIB.
C'est ça. Oui, ça c'est juste. Sauf que la dette augmente plus vite que le PIB. La dette augmente plus vite que le rythme d'accroissement du PIB. Ce qui fait que c'est pas seulement la richesse nouvelle qui va permettre de financer cette dette-là, mais on sera obligé chaque année de serrer encore un peu plus la ceinture pour pouvoir... si ça augmentait au même rythme que le PIB, au même rythme que la création de richesses, le stock de la dette allait se stabiliser. Et là, on pourrait dire que c'est la richesse nouvelle qu'on crée qui nous permet de faire face au remboursement de la dette. Mais c'est pas le cas. Ça augmente plus vite, donc ça nous amène à serrer davantage la ceinture. Donc, c'est cela. Aujourd'hui, rien que les intérêts de la dette extérieure et intérieure consomment le quart de nos recettes totales. C'est déjà beaucoup.
Sur ce point-là, justement, le ratio de la dette, hein, selon les indications, pratiquement une augmentation de 11 464,2 milliards en 3 ans, selon les indications données par le FMI. Vous, en tant qu'économiste, ce rythme d'accroissement, justement, de ce ratio-là, vous interpelle?
C'est ça. Le rythme d'accroissement est rapide. Vous voyez, quand vous regardez l'évolution de la dette double tous les 4 à 5 ans, le stock de la dette double. Depuis 2012, c'est ce qu'on a constaté. Depuis 2012, 4 ans après, c'est-à-dire 2016 ou 2017, le stock de la dette a doublé. De 2017 à 2021, le stock de la dette a doublé. Donc de 2021 à 2025, on aura encore le stock de la dette va doubler. Donc c'est ça qui inquiète. Et si on continue comme ça, en 2025, avant 2030, on y est déjà. On y est déjà. Aujourd'hui, si on applique les mêmes critères qui ont été utilisés pour dire que la dette de la Côte d'Ivoire n'était pas viable, donc qu'elle était éligible au PPTE, si on applique ces mêmes critères-là aujourd'hui sur les données en 2022 et 2023, on va arriver aux mêmes conclusions. Donc, ce n'est pas le fait qu'on paye la dette qui dit, parce qu'on peut payer la dette, mais c'est au détriment d'autres besoins internes, d'autres dépenses sur lesquelles on va accumuler des arriérés, sur lesquelles... Donc, il ne faut pas regarder seulement le fait qu'on rembourse la dette aujourd'hui et tout ça, mais on est en train de s'endetter pour rembourser d'autres dettes.
Paradoxalement, ce ratio-là, l'argument avancé, en tout cas par les dirigeants, c'est que c'est en dessous de la norme communautaire. On est à peu près à 57% oui. en 2024. Oui. C'est très loin oui. de 70%.
Oui, vous savez, ça, la norme communautaire, c'est une norme qui a été retenue. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes en dessous de ce niveau-là, je veux dire que vous avez une situation d'endettement qui est propre et tout ça. Ouais, en 2011, quand on avait une dette non viable, quand on devait aller au PPTE, le poids de la dette était autour de 50%. On n'était même pas à 60%. Mais pourtant, la dette n'était pas viable. A contrario, vous avez le cas du Japon. Ils sont à 265%. La dette représente 265% de leur PIB. Mais ils arrivent à financer, puisque c'est en monnaie locale, toute la dette est détenue par des Japonais. Donc, bon, ça pose moins de problèmes. Donc, il ne faut pas s'arrêter au ratio pour dire que non, on est en dessous de 60%. On l'était en 2011, mais on avait une dette non viable. Aujourd'hui, on va, fin décembre 2023, on sera pratiquement à 60%. On attend les chiffres officiels, les derniers chiffres.
Alors, vous soulignez la question de l'efficacité de la dette. Alors, en termes de solutions, au vu donc de ce stock de la dette ivoirienne, quelles sont les solutions que vous pourrez préconiser pour ne pas que la dette soit un boulet pour le développement?
Oui, d'abord, il y a deux ou trois choses. Il faut arriver à limiter le déficit. Parce que tant que vous n'avez pas limité le déficit, la dette va augmenter. Il y a des pays, vous voyez des pays, la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, même la Pologne aussi, ont adopté des règles budgétaires plus strictes. Ils ont appliqué d'abord ce qu'on appelle la règle d'or, qui dit que le déficit ne doit pas dépasser le niveau de l'investissement. Ça veut dire que si vous avez un déficit, c'est que c'est l'investissement qui a créé le déficit. Que s'il y a en dehors d'investissement, sur les autres composantes des dépenses, vous devez pouvoir être à l'équilibre avec vos propres ressources. S'il y a un déficit, ça ne doit pas dépasser l'endettement. Donc, on peut autoriser un déficit uniquement que si ça correspond au niveau de l'investissement. Mais même cette règle-là, ça n'a pas pu empêcher la dette d'augmenter, puisqu'il y a quand même un déficit qui porte uniquement sur l'investissement, mais qui n'y fait accroître la dette. Donc, ils ont adopté d'autres règles qu'ils appellent le frein à l'investissement, qui consiste à dire qu'il faut que sur une période donnée, le déficit budgétaire soit à peu près nul. On peut permettre qu'une année, on ait un déficit parce que la situation est un peu plus difficile, mais sur d'autres années, qu'on ait des excédents, de façon à ce que ce soit à peu près... C'est ça qui leur a permis de maîtriser leur dette. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on restreint le volume d'endettement nouveau pour éviter que la dette ne continue à s'accroître. Maintenant, il faut voir au niveau interne quels sont les ressorts sur lesquels on peut jouer pour vraiment renforcer les ressources propres.
D'où la fiscalité interne.
La fiscalité interne, il faut faire en sorte que tout le secteur qu'on appelle secteur informel aujourd'hui, qui a une contribution fiscale moindre, il faut faire en sorte que, avec aujourd'hui la digitalisation, on puisse faire en sorte que les transactions dans tout ce monde informel-là puissent reposer sur des instruments digitaux, de façon à ce qu'on puisse trouver le moyen de faire contribuer ce secteur-là au niveau fiscal. L'autre aspect, c'est de voir également quelles sont les grandes richesses. C'est ce que le président Oufo-Boigny a fait. Le miracle ivoirien qu'on a connu, tout le monde là en parlait et tout ça, ce n'est pas le cacao en lui-même. C'est parce que le président Oufo avait mis en place un dispositif d'accumulation qui permettait que sur cette filière-là, le pays pouvait engranger des ressources pour financer les investissements. On peut le faire aujourd'hui avec le cacao, avec l'anacarde, avec le caoutchouc, avec un certain nombre de produits, tout en assurant que les producteurs ont un niveau de revenu qui soit vraiment conséquent, mettons 70% du prix international par exemple. Et puis l'autre piste également, c'est l'exploitation des ressources naturelles. On exploite aujourd'hui les mines, on exploite l'or, on exploite le pétrole, mais ça n'enrichit pas les Africains. La formule de répartition qui est définie sur laquelle nos pays travaillent depuis n'est pas favorable au pays. Ce n'est pas normal. Le pays apporte le gisement. Bon, on voit aujourd'hui l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Libye sous Kadhafi. C'était des pays communément reconnus comme riches. Mais c'est parce qu'ils avaient une meilleure part de revenus tirés de l'exploitation de ces ressources-là.
Un autre aspect que je voulais développer avec vous pour terminer, ceux qui argumentent aussi, il y a un débat autour de la dette ivoirienne, certains argumentent pour dire que la Côte d'Ivoire, qui continue à avoir donc du crédit lorsque celui-ci lève les fonds, est un pays toujours crédible, on ne prête qu'aux riches. Comment vous réagissez à cet argument pour dire que parmi les pays endettés africains, on n'est qu'à la 25e position et qu'on a toujours du crédit vis-à-vis donc des bailleurs?
Bon, je pense qu'il y a une nuance, parce que il faut pas dire, personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté. Il peut être à la 30e place des pays endettés, mais il peut être très endetté par rapport à sa capacité. Voilà, donc le fait de dire que la Côte d'Ivoire est à la 25e place et tout ça, ça ne signifie rien. C'est pas un classement par rapport. On dit la Côte d'Ivoire a une dette trop élevée par rapport à ses capacités, parce que ça va finir par absorber toutes ses capacités et la conduire au surendettement. Donc c'est cela. Vous voyez, le Ghana, avant que le Ghana soit en défaut fin décembre 2022, ils étaient notés B- avec une perspective favorable. Et c'est en août 2022 que les agences de notation ont dégradé sa notation à C. Et ensuite, en décembre, ils l'ont dégradé encore à défaut restreint ou défaut sélectif. Donc, le fait de, c'est-à-dire que la situation là, elle apparaîtra au grand jour à un moment donné. Elle apparaîtra au grand jour à un moment donné. Et là, sur les données de 2022-2023, elle est très apparente. Le Fonds monétaire dit dans ses analyses de viabilité, ils disent que la Côte d'Ivoire a un risque modéré de surendettement. Ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas du tout de risque de surendettement. Hein. Ils disent qu'il y a un risque modéré. Donc le risque est là.
Alors qu'est-ce qu'on craint si ce rythme est maintenu en termes de perspective?
Non, on craint que on puisse être comme le Ghana ou la Zambie ou l'Éthiopie aujourd'hui qui a déclaré un défaut de paiement, qu'on ne soit plus en mesure de payer la dette. Et là, ça nous met dans un cercle vicieux parce que on sera amené à prendre des mesures encore plus drastiques pour réduire les dépenses, notamment les dépenses sociales, pour s'ajuster. Si nous-mêmes on ne commence pas à prendre des mesures progressivement pour essayer d'arriver dans un horizon donné, avoir une meilleure maîtrise de la dette pour éviter qu'elle ne continue à augmenter et pour préserver le financement de nos besoins prioritaires. Mais le risque, c'est qu'on ne pourra plus financer nos besoins prioritaires. On va financer la dette ou alors on sera en défaut et ça va nous amener dans des situations qu'on a déjà connues par le passé. Donc, il faut que nous-mêmes, nous prenions les devants, qu'on arrive à mieux la maîtriser.
Monsieur Kwasi Kwame, je vous remercie.
D'accord.
Je rappelle que vous êtes ingénieur, statisticien, économiste. Vous nous éclairiez en tout cas sur ce mécanisme d'endettement d'un pays et les risques aussi. Merci à vous.
Ok, merci.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.